m'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, bon début de semaine en compagnie de la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. En instituant la décentralisation comme mode d'administration de l'État, la RDC s'est inscrite dans la logique de booster le développement à la base. Plus de 10 ans depuis la mise en place de ce mode d'administration, plusieurs observateurs estiment qu'il est temps d'évaluer la libre administration des provinces, surtout en ce qui concerne les entités territoriales décentralisées ainsi que la gestion des différentes ressources allouées à ces entités pour assurer leur développement. Quelle est la situation de gestion de vos entités territoriales décentralisées, à savoir villes, communes, secteurs, chefs et chefferies dans votre milieu? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Patrick Kassongwa est à la mise en onde de ce magazine que vous présente Pierrot Elamegi, fidèle auditeur. Bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081 99 77 800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Fidèles auditeurs, merci d'être ensemble avec nous dans cet échange. Près de 55 minutes consacrées à la question de la décentralisation. Et dans ce studio, nous recevons Maître Shadrach Mogad. Maître, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordinateur provincial du cadre de concertation de la société civile dans la province de Lualaba. Et vous êtes en mission à Kinshasa. Et nous faisons le point sur les ETD. Qu'est-ce qui a été dans la pensée du constituant en instaurant les entités territoriales décentralisées?
Merci, M. Pierrot. Comme vous l'avez dit, dans la pensée du constituant, c'était obtenir la gestion des entités ou de la chose publique à la base. Ça veut dire permettre aux communautés qui sont à l'intérieur du pays d'avoir faire face à une proximité considérable avec leurs administrants. Ça veut dire les autorités pouvaient facilement être en contact direct avec leurs administrés. Cela permettait aussi que les administrés puissent se confier facilement, présenter leurs problèmes et que les administrants sont aux réalités, connaissent les réalités auxquelles sont confrontées les populations. Cela pouvait permettre facilement d'élaborer des programmes ou des politiques directes pour soulager les communautés des difficultés qu'elles connaissent et au quotidien.
Alors, on ne peut pas gérer les entités et aller à leur développement sans parler de moyens. Qu'est-ce que la loi prévoit exactement comme ressources pour permettre à ces entités de pouvoir faire face aux problèmes, aux défis de développement?
Voilà, ils vont se développer qu'à condition que l'État mette aussi à leur disposition des moyens conséquents. Et c'est notamment, il est prévu qu'on rétrocède aux ETD, les entités territoriales décentralisées, des fonds qui leur permettent de mettre en place un plan de développement dans les entités et exécuter ce plan afin qu'on voie la RDC dans tous ses coins se développer et atteindre les niveaux qui soient satisfaisants. Donc la rétrocession qui vient du pouvoir central, mais il y a aujourd'hui des ETD qui ont les bénéfices des redevances minières, ceux qui sont dans des périmètres
où il y a l'exploitation
des entreprises extractives. Et là, on a la chance ou les privilèges d'avoir directement dans leur compte des fonds qui permettent de réaliser certains projets de développement socio-économique des communautés.
Et vous êtes sur terrain, vous travaillez sur cette question, cette thématique. Quelle évaluation vous faites exactement de cette question de la rétrocession du développement des ETD, que ce soit au Lualaba ou dans d'autres provinces, parce que vous les travaillez sur le plan national aussi?
Merci. Je vais parler d'abord de la rétrocession qui est un fonds qui vient du pouvoir central. Vous savez, récemment, nous avons eu à échanger avec différentes ETD qui sont dans la province du Lualaba. Et fort est de constater que des ETD ont acquisé plus de 9 mois d'arriéré de rétrocession. Ça veut dire le pouvoir central n'a pas rétrocédé ce qui est des droits aux ETD. Comment peut-on penser ou estimer qu'on va développer des ETD du moment que ces ETD, plus de 9 mois, comment et pourtant la rétrocession permet d'exécuter certains projets, de résoudre certains problèmes. Également, c'est la rétrocession qui permet de payer ou de faire fonctionner l'administration de ces entités. Mm-hmm. Ce qui veut dire, il y a eu dysfonctionnement, il y a eu beaucoup de problèmes dans ces ETD-là. Voilà que le pouvoir central n'a pas répondu à ses devoirs. C'est vraiment un problème qu'il faut résoudre le plus tôt, il faut faciliter, il faut qu'il y ait une volonté réelle. Et aussi, à ce qui concerne cette rétrocession. Monsieur Pierrot, c'est vraiment illogique, je dis bien, pourquoi? Et la rétrocession, supposons qu'on dise, le pouvoir central dit à chaque ETD, on donne 5 millions de francs. C'est un exemple. Et c'est un fonds uniforme. Mais est-ce que les ETD ont-ils la même superficie? Est-ce que les ETD ont-elles la même démographie de la population? C'est pas ça. Parce qu'il y a, je connais, il y a des chefferies où nous trouvons. Il y a seulement 3 groupements, c'est une chefferie. Mais il y a des chefferies qui comptent plus de 30, 20 groupements. Et on remet à toutes ces chefferies
les mêmes montants.
Je vais donner l'exemple. Quand vous prenez, il y a la chefferie Mointiave. Elle compte plus de 500 villages et plus de 21 groupements. Mais cette chefferie reçoit la même rétrocession au même titre que les autres chefferies qui ont 3 groupements, qui ont, et là, il y a plus de 400 000 habitants. Mais là où il y a même 10 000 habitants, on donne les mêmes montants. Est-ce qu'on attend de développer avec une autorité de cette ETD? Va-t-elle faire quoi avec les montants? Parce que les besoins, les problèmes sont énormes, mais les moyens sont totalement insignifiants. Nous pensons, pour moi, que le gouvernement central doit proportionnaliser vraiment la rétrocession selon les besoins, selon les capacités de chaque entité.
Voilà. Alors, on va d'abord aller en ligne. Il y a 3 auditeurs qui nous ont rejoints dans ces débats. Clément et Talbumbashi ainsi que Dodé et Alfred Akalemi. Merci d'être avec nous. Clément, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Clément.
Voilà. D'emblée, j'aimerais d'abord dire que la décentralisation a toujours été une bonne technique de gestion administrative parce que la décentralisation permet tant soit peu les développements au niveau de la base ou au niveau local. Mm-hmm. Mais de là, force est de constater que la décentralisation n'est pas la bienvenue dans notre pays. Je prends l'exemple de la ville de Lubumbashi, par exemple. Vous verrez que malgré les sommes colossales et tout ce que la ville récolte chaque fois comme redevances, comme taxes, la ville n'est même pas en mesure simplement d'attirer donc la salubrité au sein de la ville. En tout cas, ce sont des choses que nous déplorons un peu. Et moi, je pense que l'idée même de la décentralisation était que les autorités soient beaucoup plus rapprochées aux administrés. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Les autorités aujourd'hui, tellement qu'elles sont nommées, ne parviennent pas en tout cas à privilégier les intérêts de la population. Elles se focalisent beaucoup plus sur les intérêts politiques et autres. Voilà. Je pense que si on pouvait commencer par organiser les élections au niveau local dans ce pays, il y aura quand même une certaine façon de redresser la chose.
Merci beaucoup Clément. Au-delà de la rétrocession, vous évoquez aussi les redevances qui sont récoltées par la ville, comme à Lubumbashi par exemple, il y a des taxes, et vous dites que malgré même ces taxes récoltées par la ville, mais ils ne parviennent pas à faire face à la question de la salubrité. Et tout ça, c'est parce que ces autorités des ETD sont toujours nommées. Pour vous, il faut organiser les élections locales, municipales, urbaines, ça peut résoudre le problème. Merci beaucoup. Nous restons à Lubumbashi avec vous, Dodé. Bonjour, Dodé.
La fréquence de la paix, bonjour aussi à tous nos auditeurs qui nous suivent à partir du campus de la Kassapa.
Ok, on vous écoute Dodé.
Merci de la parole à nous accorder et surtout de nous avoir associés à participer à cette échéance citoyenne. En fait, la constitution de la RDC à son article 3 dispose que les entités territoriales décentralisées sont dotées de la personnalité juridique, c'est-à-dire elles ont des droits et sont soumises à des obligations. Et ces entités sont gérées par les organes locaux. Et parmi les entités, nous pouvons citer la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. En fait, qu'est-ce que j'aimerais dire? La loi numéro 13, barre 0, la loi numéro 17, barre 013 du 24 décembre 2017, détermine les modes d'accession à ces fonctions. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que les entités territoriales ne connaissent pas le développement? Parce que si nous aimerions faire une interprétation théologique, on se rend compte que les législateurs étaient souciés de rendre les animateurs des entités territoriales redevables devant son électorat. Ce qui fait que les nominations, les différentes nominations opérées par les autorités font à ce que les animateurs travaillent pour l'intérêt de leur soit groupement politique ou soit famille politique au détriment de la population. En fait, j'avais des préoccupations à l'invité.
Ok.
La première, c'est la suivante. Ces derniers jours, on assiste à des nominations, des permutations, des suspensions opérées par différentes autorités. Alors, j'aimerais savoir, en cas de nomination, quelle est l'autorité compétente de nommer, c'est-à-dire les animateurs des entités territoriales
décentralisées. Voilà, merci. Et la deuxième question, oui.
L'invité peut nous citer de manière illustrative quelques domaines relevant du pouvoir exclusif des entités territoriales décentralisées et certains articles si possible. Merci.
Merci beaucoup, Dodé. Vous avez dit, ces autorités n'arrivent pas à bien gérer pour assurer les développements, c'est parce qu'ils sont nommés, alors que la Constitution prévoit qu'ils soient élus. Et vous aurez aimé vraiment que les animateurs des ETD soient élus. Et la deuxième chose pour vous, c'est de savoir qui a la compétence de nommer les animateurs des ETD et quels sont les domaines dans lesquels les ETD ont des compétences exclusives. Merci beaucoup, Dodé de Lubumbashi. Alfred, vous êtes à Kalemi. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour Alfred.
Bonjour M. Pierrot, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute Alfred.
Merci beaucoup. J'ai suivi avec intérêt les interventions de l'invité et de mes co-débatteurs. Je peux dire d'emblée que l'idée de la décentralisation était la meilleure de par son entendement. Dans la mesure où les ETD jouissent de l'autonomie de gestion sur certains points. Ainsi, dans le souci de décharger le gouvernement central, et par exemple, si beaucoup plus sur le plan administratif. Cependant, je peux dire que cette décentralisation a été faite de manière précoce, d'autant plus que l'organisation et le bon fonctionnement de certaines entités font défaut. Et il y a même des lois qui fixent les modalités de fonctionnement et d'organisation des ETD. Il y a même des lois qui fixent la création des ETD, mais ces lois-là, ne sont pas respectés. C'est par exemple le cas de notre province du Tanganyika, ville de Kalemi, où nous avons des communes qui n'ont pas de bourgmestre. Nous avons un secteur qui reflète encore une ambiguïté de fonctionnement, car ils sont dirigés de manière directe par la ville, maire de la ville. Hein? C'est, ça pose vraiment un problème. Donc, le mieux serait, selon moi, que le respect de l'organisation et le fonctionnement soient de rigueur, pour donner le bon sens de la décentralisation, de la décentralisation. Sinon, ça serait le contraire si on ne respectait pas ces lois-là. Merci.
Merci beaucoup, Alfred, pour vous. C'est une question du respect de loi, de l'application de la loi. Nous revenons à vous dans ce studio, Maître Shadrack Mougad. Vous avez suivi les trois compatriotes. Ils ont posé vraiment, je peux dire, ce sont des préoccupations vraiment majeures. La question de l'élection des animateurs des ETD, la question de quelles sont les compétences ou bien les domaines exclusifs, la question de l'application de la loi, ce sont de vrais problèmes posés par nos compatriotes.
Merci M. Pierrot, ils ont totalement raison. Vous savez, nous-mêmes, chaque fois, nous nous plaignons du fait que l'intervenant l'a dit. Aujourd'hui, nous voulons le développement à la base. Mais ces ETD qui existent, leurs dirigeants sont nommés et jusque-là, ces ETD sont dépourvus des organes délibérants. Et pourtant, la Constitution voulait que, lorsqu'on parle du développement à la base, il faudrait qu'il y ait un contrôle. Mais qui les contrôle? Aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'il y a l'inspection générale des finances qui descend pour contrôler la gestion, par exemple, par rapport à ceux qui récoltent la redevance minière. Mais nous disons non, ça ne suffit pas. Ce sont des personnes qu'on envoie parfois qui se retrouvent parce que lorsqu'ils font des descentes, ils ont des pots de vin, ils rentrent à Kinshasa, bourrés d'argent, et ça ne résout aucun problème pour nous qui sommes sur le terrain. Nous avions pensé qu'il est important, c'est pourquoi la société civile ne cesse de demander que il est impérieux que cette fois-ci, au lieu de commencer par les élections présidentielles et législatives, mais qu'on commence d'abord par les préliminaires, c'est-à-dire les élections municipales, locales et autres, et monter. Parce qu'il y a depuis 2006 jusqu'à là, notre cycle électoral est toujours incomplet. C'est une honte pour la République. Cette fois-ci, si on pouvait changer pour que le peuple lui-même puisse se choisir les dirigeants, des personnes ayant une probité, qui puissent avoir des redevabilités envers le peuple. Mais du moment qu'ils sont nommés, ils savent bien que je n'ai rien à faire au peuple, je ne rends aucun compte au peuple, je rends compte à celui qui m'a nommé, à qui j'ai une redevabilité.
Voilà.
Il faut
changer. Et c'est pour cela même que notre ami de Kalemie, pose le problème de qui doit nommer, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de confusion. Tantôt c'est le gouverneur qui suspend le bourgmestre, le maire de la ville est nommé. Est-ce que c'est Kinshasa, c'est le ministre de l'Intérieur? Il y a un peu cette confusion là sur qui doit en principe nommer les animateurs de ces ETD à différents niveaux.
Ces problèmes sont partout par rapport, mais la nomination, nous savons que pour nommer les ETD ou les dirigeants des ETD, le ministère de l'Intérieur national en a la compétence. Il nomme, mais au niveau des suspensions, il y a des gouverneurs, il y a des maires qui interviennent. Parfois, les maires suspendent, les gouverneurs relèvent la suspension. Des conflits de compétences au niveau des ETD ou des provinces. Mais nous pensons que le ministère devait jouer le rôle important. Mais si, pour éviter cette question, il faut vraiment qu'on passer arrive élections. Seulement à élire. Là, avec des organes délibérants à côté de ces dirigeants ou de ces animateurs, ils pourront obtenir des motions, des sanctions de la part des mandataires de la population.
Voilà. Avant d'écouter d'autres auditeurs, est-ce que vous avez des cas concrets aujourd'hui des ETD à travers le pays ou là où vous êtes qui sont arrivés quand même à faire des pas sur le plan du développement à partir de la rétrocession ou soit de la redevance minière, parce que vous avez évoqué ça?
La rétrocession, ce sont des sommes que nous qualifions des sommes modiques et parfois irréalistes. Parce que nous nous demandons, les gouvernements, lorsqu'ils calculent la rétrocession, est-ce pour développer ou c'est juste par formalité? Je vous dis, quant à la rétrocession telle qu'on remet aux ETD, c'est insignifiant. Et vous trouverez que ça suffit seulement, ça ne suffit même pas pour payer les salaires des agents commis à une ETD. Mais quand il faut considérer la redevance minière, oui, la redevance minière, ce sont des fonds que les ETD reçoivent, des fonds vraiment significatifs qui puissent permettre le développement. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des ETD qui se sont vraiment excellés dans la gestion de ces fonds, à la grande déception des populations ou des communautés bénéficiaires de ces redevances. Ils font confusion entre les fonds prévus pour le développement ou la réalisation des projets socio-économiques des communautés impactées par l'exploitation minière, et ces fonds sont détournés pour des fins privées des animateurs où certains se partagent entre eux. Mais il y a aussi des ETD qui se sont démarqués en faisant bien des choses sur le terrain. Quand vous dites, est-ce que vous en avez l'exemple? Oui, chez nous là-bas, nous avons par exemple le secteur de l'huile. Aujourd'hui, c'est un secteur qui a quand même posé des actes considérables. Il y a eu des bâtiments, il y a eu des hôpitaux, même dans un petit village tel que Kinsenda. Kinsenda, c'est un petit village, mais on a érigé un hôpital. On a vu à Lualabagar, il y a un hôpital. On a vu des marchés. On a vu la construction des routes, la voirie urbaine du quartier Jolicite. Plus de 38 kilomètres de routes ont été entretenues. Et on voit aujourd'hui au Kamassar, il y a des projets d'addiction d'eau potable à des populations, la desserte en eau potable. Ce sont des projets que nous voyons et qui n'ont été visibles. Comme ça, il faut saluer. Il y a aussi la commune de Dilala qui se débrouille, qui fait tout pour quand même que nous voyons, nous sommes en train de voir des réalisations, des routes, des transformateurs, on voit des hôpitaux, des ambulances.
Exact.
Et ces appuis-là, au bénéfice des communautés, sont à saluer. Mais il y en a là où on reçoit beaucoup. Mais les réalisations ne sont pas proportionnées. Et là, nous disons non, il faut dénoncer.
Voilà. Alors, Claude, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, Claude. Claude, vous êtes avec nous. Bonjour. Alors, on a des petits soucis des lignes avec Claude de Kinshasa. Héritier, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour. cher journaliste. Bonjour également à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, héritier.
Oui, j'étais en train de dire que la décentralisation comme le mode de gestion qui rapproche les dirigeants et dirigés n'a rien apporté dans l'histoire de mon pays. Dans la province de la Tchoko, par exemple, depuis la période de Dion Nilongo Tokole, premier gouverneur après le démembrement, à passer par Portal Omatapui, maître Louis-Marie Wale Lofungola, qui est au perchoir, rien ne marche. Il est nécessaire de signaler que le plus souvent, le gouverneur de la Tchoko sont accusés de mésgestion à tort ou à raison à cause de la rétrocession et de l'insuffisance des ressources génératrices de revenus susceptibles de booster l'économie de la province. Quand cela ne tienne, vous allez remarquer que le route des déchets supplémentaires sont pour le droit de l'abri, que ce soit la route d'Analia, Yangambi, Touri, Opala et Loutou, avec comme conséquence la spéculation du prix au marché. Il n'y a pas d'emploi pour la multitude de diplômés qui sont forcés au chômage après leurs études. Pas de bus de transport en commun. Sur place dans la ville de Kisangani, M. Wale nous a fabriqué beaucoup de chantiers de route qui ne respectent pas des normes requises. Le maire de la ville est presque inexistant. On lui souhaite qu'il s'agit de vendre les concessions du marché. Le bourgmestre est totalement amorphe dans la scène politique. Bref, la Tchoko est en séjour la plus vaste province en termes de superficie, mais centre dans un cercle de pauvreté sans merci. Pour citer, nous prenons une révolution immédiate qui tend vers le décollage de la campagne de la Tchoko.
Merci beaucoup, hein, héritier. Vous avez là adressé vraiment un tableau sombre de ZTD dans la Tchoko. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de fonds. La ville de Kisangani, vous ne sentez pas la présence du maire. Le bourgmestre, la même chose. Alors pour vous, vous dites que la décentralisation, telle que ça a été conçue, avec les réalités de la Tchoko, il n'y a pas vraiment de résultat. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir autrement. Et c'est aussi le rôle de la société civile ainsi que des autorités. Merci beaucoup. Franck, vous êtes à Boutembo. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de cette radio qui nous suivent à ce net moment.
On vous écoute, Franck.
En fait, nous sommes à Boutembo, dans la province du Nord Kivu. Nous allons soulever par rapport à l'évaluation de 10 ans déjà de la promulgation de cette loi portant dans la décentralisation des entités territoriales décentralisées dans la République démocratique du Congo. Donc à notre niveau, nous pouvons ajouter que nous n'avons pas encore vu de changement considérable par rapport aux attentes que la population avait à l'égard du régime politique qui a aujourd'hui la baguette du pouvoir. Donc nous observons dans la province du Nord Kivu l'absence de route. Nous avons certains milliers, certaines agglomérations qui sont actuellement enclavées par absence de route exactement de certes agricoles. Mais aussi, nous pouvons aller dans le cadre où nous allons juste nous poser la question par rapport à ce qui se passe au niveau de la gestion de la ville de Boutembo comme une entité territoriale décentralisée. Donc, si vous arrivez dans la ville, il est vrai que vous allez constater que la ville c'est une ville qui porte les statuts d'une ville commerciale en République démocratique du Congo. Mais si vous allez à fond dans les vérifications de tout ce qui s'y passe, notamment des routes et des compétences urbaines, il n'y a absolument aucune réalisation au niveau de la ville de Boutembo. Mais aussi, nous allons soulever par rapport à l'article 171 de la Constitution. Là, nous sommes au niveau provincial qui stipule que les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Mais également, si vous défendez, vous allez trouver au niveau de l'article 175 qui alloue à chaque province de 40% de respect à caractère national provenant de cette province avant la transmission au trésor public. Mais également à ces 40%, s'ajoutent des subventions et des donations provenant de la caisse de péréquation constituée par l'article 181 de la Constitution dans le but d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres de développement entre les entités territoriales centralisées. Donc, ici à Boutembo, c'est pour nous comme des textes où soit téléchappelé de bonnes intentions, mais dans l'application, nous ne trouvons aucune intervention de l'autorité provinciale qui est nationale dans cette question de gestion de centralité de cette entité. Mais le point qu'on peut soulever actuellement, nous pouvons parler également, comme dans la province du Nord Kivu, ce qui nous a mis déplorer beaucoup plus, d'abord l'absence de route qui allait permettre à ce que les grandes villes de la province du Nord puissent bénéficier des produits agricoles provenant donc des villages ou des millions de champs par lesquels les populations font des activités. Parce que comme vous le savez, dans la province du Nord Kivu, nous vivons, il n'y a pas d'emploi, donc nous vivons du village. Que lorsqu'il y a la sécurité et qu'il n'y a pas encore de route, imaginez-vous.
Et ça pose des véritables problèmes. Merci beaucoup, Franck. Vous avez insisté, mais en fait, vous avez dit toutes les lois existent. La caisse de péréquation, je me demande si elle fonctionne aujourd'hui. Vous ne sentez pas vraiment que la ville de Butembo, il y a cette rétrocession et même les initiatives locales, les finances locales. Notre ami disait tout à l'heure aussi qu'il y a des maires des villes qui collectent des taxes, mais on ne sait pas quel est l'impact de tout cela. Alors, Junior, vous êtes à Ikela. C'est dans la Chuapa, je crois bien. Junior Jackson, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour à vous, Papi. Bonjour à tous les intervenants et à tous les auditeurs.
On vous écoute, vraiment, Junior.
Vraiment, d'entrée de jeu, je voudrais quand même relever le fait que en RDC, la décentralisation est un fait rateux. C'est une histoire, c'est une décentralisation. Nous sommes un système où tout est dit par son nom, du fait que normalement, dans la décentralisation, par la volonté du législateur, les animateurs devaient être ici, les élections, ce qui n'est pas le cas. Après, ici, à la Chuapa, la situation des IDB est vraiment catastrophique, et cela pour plusieurs raisons. Notamment, il y a la culture attentiste des autorités administratives décentralisées, qui se manifeste le fait qu'au lieu, elles sont là pour booster le développement, mais elles continuent à attendre que tout vienne de Kinshasa. Je voudrais vous donner un cas type à la Chuapa. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, tous les enfants qui sont nés n'ont pas d'acte de naissance. Alors que ce sont les autorités de santé centralisées qui sont les officiers de l'état civil habilités à donner et à conférer les actes de naissance, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il y a aussi un problème de manque de leadership et la capacité notoire de l'autorité provinciale. Vous le savez, c'est vrai que nous décrions l'absence des organes délibérants qui devraient participer d'un point de vue, de mon point de vue, du contrôle des ETB et du choix des politiques publiques et conséquents. Mais que le gouverneur, qui est le représentant de l'État au niveau de la province et qui exerce en vertu des articles 95, 96 et suivants de la loi sur les ETB, la tutelle administrative qui est contrôle sur les actes administratifs, a priori, a posteriori, notamment quand on se référera à l'article 97, qui dit que l'élaboration des projets de décision budgétaire de l'ETB est soumise au gouverneur pour la validité, afin de vérifier la compatibilité avec les hypothèses macroéconomiques qui auraient été mises dans les prévisions du budget national et les projections des recettes et la prise en compte des dépenses prioritaires. Ce qui n'est pas le cas. On ne sait pas qui fait le gouverneur, on ne sait pas qui fait ses ministres, qui fait les autorités. En tout cas, pour l'épée que le pouvoir central en train de louer comme ETB, c'est devenu l'argent des chefs de secteur et les gouverneurs qui se départissent. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrôler.
Ça veut dire qu'il y a un problème réel de contrôle et de volonté. Vous l'avez dit, il y a d'abord des initiatives locales, les ETD qui ne sont pas capables de donner des actes de naissance alors qu'ils se sont des actes régénérateurs des recettes. Ça veut dire qu'il y a un problème d'initiatives locales, de leadership local. Merci beaucoup. Elie Lokoa, vous êtes à Kinshasa, vous gardez la ligne. Nous allons revenir à vous le temps que notre invité puisse réagir. Je rappelle que vous pouvez commenter ces sujets au 081-800-9469, mais également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, Radio Capi vous propose durant 90 jours des programmes variés. Suivez sur nos antennes l'impact des activités des agences onusiennes à travers le monde et en République démocratique du Congo. Ensemble avec la famille de l'ONU. Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Maître Shadrach Moukad, vous avez suivi nos compatriotes. Au-delà de ce qui a été dit avant, mais il se dégage aussi un problème de leadership, des compétences, d'initiative, mais le problème du respect des lois, les amis l'ont dit, mais aussi la question d'initiative locale au niveau des animateurs des ETD.
Merci, Monsieur Pierrot. Je veux vous dire que c'est un élément très important. Les animateurs des ETD manifestent vraiment des capacités limitées dans la conception et la gestion des projets de développement. Mais c'est un handicap. Il faudrait qu'ils soient renforcés en capacité. Vous savez, on a décentralisé. Est-ce qu'il y a eu une politique d'accompagnement de ces ETD? Ça veut dire renforcer en capacité, leur montrer comment ils peuvent être vraiment avoir des leaderships capables de pouvoir booster le développement de leurs ETD. Ils sont là, incapables de faire quoi que ce soit. Il faut une politique dans ce sens pour les accompagner. Mais même s'ils sont formés, qu'ils aient ces capacités nécessaires, mais posons-nous la question, parce qu'il parle qu'il manque des infrastructures routières, il manque tout ce qu'on vient de détailler ici comme tableau. Est-ce c'est le problème seulement d'incapacité? Je vous ai dit d'entrée de jeu que selon nous, après nos analyses, nous disons la rétrocession, parce que tout le monde n'a pas droit à la redevance minière. Les autres ETD qui sont à l'intérieur du pays, les gouvernements devaient les accompagner. Et pour qu'ils se développent, il faut leur donner des moyens conséquents. Est-ce que les moyens qu'on leur donne dans la rétrocession, est-ce que ce sont des moyens conséquents? Ce sont des moyens qui sont donnés, qui ont un juste rapport entre les besoins et les moyens là qu'on donne. Mais il y a inadéquation. Ça veut dire que c'est impossible. Comment pouvez-vous donner à quelqu'un qui a de besoin de construire des routes, de construire des écoles, de construire ce sont des problèmes qui sont sur le terrain, mais vous lui donnez 5 millions de francs par mois. Et pourtant, les besoins même pour le fonctionnement.
Ces 5 millions arrivent rarement, vous l'avez dit.
Je dis bien, il y a plus de 9 mois dernièrement. Pour nous, dans la province du Lualaba, on a enregistré plus de 9 mois de retard d'obtenir la rétrocession. Donc, les gouvernements doivent revenir sur cette question. Donc nous pouvons demander que c'est au Parlement de voir bien contrôler les gouvernements. Est-ce qu'ils le font dans une réelle volonté de développer les entités territoriales ou on les fait par formalité? Il faut éviter le formalisme dans notre pays. Nous devons aller réellement dans un sens d'une volonté politique réelle, les soucis d'aider des communautés. Ça veut dire on doit savoir établir d'abord un état des besoins, connaître les problèmes qui sont dans chaque ETD, et le gouvernement peut commencer maintenant à venir à répondre selon les besoins, c'est-à-dire remettre à ces ETD les moyens qui leur permettront de réaliser les projets. Je pense que ces ETD font des rapports au ministère de l'Intérieur. On est là où le ministère ou le gouvernement central, il est bien avoir le pouvoir, avoir la main mise sur tous ces ETD. Mais lorsqu'ils établissent leur état des besoins, ils présentent les problèmes qu'ils connaissent dans leur milieu. Est-ce que les gouvernements, ou est-ce que nous pouvons dire que le gouvernement a répondu favorablement le plus tôt? C'est rare. Non, ils ont la rétrocession qui ne vient pas ou qui vient d'une manière vraiment formaliste. Il faut vraiment refaire les choses. Ça veut dire le Parlement doit élaborer une politique claire et des lois claires sur la manière dont il faut rétrocéder à ces ETD.
Vous avez suivi Franck de Boutembo qui a dit tout à l'heure que Boutembo c'est une ville commerciale, c'est comme Lubumbashi, comme notre ami le disait, comme Kinshasa, ce sont des villes comme ce sont des villes qui ont un fort taux d'activité peut-être économique qui permettent aussi aux maires de pouvoir collecter quelques taxes, n'est-ce pas? On le voit, comme notre ami le disait à Lubumbashi, qui peuvent même faire face ne fût-ce qu'au problème de la salubrité, mais cela n'arrive pas. Est-ce que les ETD, toutes n'ont pas les mêmes moyens économiques, ont-ils la possibilité, par rapport aux petites redevances locales, de pouvoir poser certains gestes sur certaines questions, comme la salubrité, par exemple?
Mais nous avons dit les ETD ont l'autonomie de gestion. Ils ont la capacité d'élaborer des projets de développement. Disons d'abord, selon l'esprit du code minier, dans son article 242, qui parle de la redevance minière. Cet article qui parle de la redevance minière dans le code minier, il prévoit que les fonds de redevance minière devraient être affectés dans la réalisation des projets de développement socio-économique des communautés affectées. Mm-hmm. Ça veut dire, lorsque nous voulons parler du développement, on ne va pas se développer là où nous sommes, dans un environnement malsain. Donc, ils peuvent affecter. C'est question d'élaborer des projets, mm-hmm. mettre en place une politique réellement pour aider des communautés de se retrouver que oui, merci. La manne que nous percevons mm-hmm. a contribué aujourd'hui à assainir notre milieu, a permis aujourd'hui à réaliser tel projet. Mm-hmm. Ils ont ces capacités. La loi elle-même les reconnaît ce pouvoir. Il suffit, nous avons dit, du moment qu'ils sont limités, ils sont pas capables de concevoir et ils n'ont même pas des capacités de gestion. Voilà pourquoi nous assistons la mésgestion et il n'y a rien qui soit réalisé sur le terrain.
Merci beaucoup. Élie, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour Élie.
Bonjour, merci la Radio Capi de l'opportunité que vous m'avez faite aujourd'hui. J'ai salué l'invité pour la pertinence de son intervention.
Ok, je vous écoute.
J'aimerais ici soulever qu'il y a une problématique en la matière par rapport à la gestion des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que lorsque même vous lisez dans le domaine de la loi, la Constitution, en fait, a déjà établi, a érigé certaines dispositions qui donne, n'est-ce pas, la compétence exclusive pour les provinces et la compétence exclusive pour le gouvernement central. Ainsi, cette compétence aussi des entités territoriales décentralisées. Donc, chaque département institutionnel, chaque département de l'État, par rapport à ce système politique que nous avons opté, celui de la décentralisation aujourd'hui, il y a lieu de constater et qu'au niveau même des provinces, donc les ETD sont un peu inhibés quant à leurs compétences dévolues par la Constitution et certaines lois de la République, dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs de la vie sociale et économique, vous verrez qu'à la place de voir les ETD faire son travail, vous verrez que le gouverneur de province se substitue des responsables des entités territoriales décentralisées, ce qui n'est pas aujourd'hui acceptable dans un état de droit. Même aujourd'hui, lorsque peut-être nous prenons les camps de l'Équateur ou de la Chapa, et bien évidemment, vous voyez, même des routes à intérêt urbain qui sont de la compétence des entités territoriales décentralisées. En tout cas, vous allez voir l'immixtion, l'ingérence du gouverneur des provinces là-dessus. Quelle est l'importance du gouverneur des provinces, qui est l'autorité de la province qu'est-ce qu'il va venir faire dans un travail qui concerne les communes, qui concerne la mairie, par exemple. C'est ce qui pose aussi aujourd'hui des confusions au sein ce qui pose aujourd'hui des confusions entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. Et donc, il faut vraiment faire attention sur cette question. Un autre élément, c'est lequel, Pierrot? Nous remarquons il y a un problème, il y a manque de management, il y a un problème aussi de leadership au sein de différentes institutions publiques, en l'occurrence les provinces, et quand bien même les entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, vous allez connaître que même dans l'article de la Constitution, si j'ai encore une bonne mémoire, l'article 199 a déjà prescrit que les provinces elles-mêmes peuvent créer des collaborations pour la gestion de leurs entités. Mais néanmoins, nulle part, est-ce que aujourd'hui en RDC, certaines provinces se sont déjà soudées pour la gestion de leurs provinces? Non plus. C'est ça que même la Constitution donne prérogative au gouverneur des provinces d'avoir d'avoir les passeports diplomatiques pour devoir manager à l'étranger et ailleurs chercher les partenaires pour que ces partenaires qui soient les investisseurs dans la province à travers les passeports diplomatiques. Mais le gouverneur de province et les députés provinciaux, ils ont des passeports diplomatiques, mais ils ne font absolument rien avec tous ces passeports. En tout cas, ça
déploie. Alors, pour vous, Élie, vous allez plus loin. Merci beaucoup, Élie Lokoa. Vous allez plus loin. Vous dites que les provinces ont même l'habilité, la loi leur permet, leur donne le pouvoir de collaborer. Par exemple, deux, trois provinces, ils se mettent ensemble parce qu'on sait que l'ensemble de nos provinces sont issues de grandes provinces, n'est-ce pas? On a quatre provinces issues d'une grande province, trois, deux. Ils peuvent se mettre ensemble pour avoir de projets communs. C'est un problème. Vous avez évoqué aussi la question des la caisse de péréquation évoquée par les amis tout à l'heure. J'ai oublié, on va revenir à notre invité pour nous dire où en sommes-nous aujourd'hui avec cette question. Plusieurs conférences de gouverneurs sont revenues sur la question de la caisse de péréquation. Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'avait aussi promis dans son discours qu'il faut activer rapidement cette question-là. On va revenir sur l'ensemble de ces problèmes. François, merci d'être avec nous. Vous êtes à Ilebo, dans la province du Kassai. Bonjour, François.
Bonjour, Pierre-Louis Mengi. Bonjour, G.R. Rambo. Bonjour à l'invité. Bonjour à madame, mon épouse, madame Marie. Bonjour à Pierre-Louis Moutelé. Je suis très content de ce sujet. Je suis sociologue d'information, comme je l'ai toujours dit. C'est un bon sujet. Vous savez, la question de la libre administration des provinces pose des problèmes à RDC. Monsieur Pierrot, vous comprendrez ensemble avec moi que la République démocratique du Congo n'a pas la culture de respecter ses propres textes. Vous savez, la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, qui a été révisée en janvier 2013. Mais cette loi a bien déterminé toutes les choses. Vous savez, là-bas, on parle de la rétrocession des provinces ainsi que des ETD, entités territoriales décentralisées. Parce que la différence entre entités territoriales décentralisées, comme vous l'avez souligné dans votre page, nous avons la chefferie, la commune, la ville, ainsi que la chefferie, la commune, et d'autres. Vous savez, ces entités territoriales décentralisées doivent avoir une libre administration dans leur coin. Ici chez nous, il est beau ici, par exemple, c'est un territoire, mais nous avons une commune rurale ici, pas ici. Nous avons les secteurs, j'avais aussi oublié, les secteurs de Mapangu, le secteur de Malumalu, le secteur aussi de Banga, le secteur de Basongo. Ces entités-là ont la libre administration des provinces dans leurs entités. Bon, mais vous rendrez compte que le gouvernement central n'arrive pas à rétrocéder au gouverneur. C'est un grand problème, qui crée des problèmes entre l'exécutif provincial et l'assemblée provinciale. Le problème, c'est le manque de la volonté, comme je l'ai toujours souligné. Je ne manquerai jamais à en parler ça. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de coalition. Moi, je m'attendais à ce que ce gouvernement puisse respecter intégralement les principes de la Constitution. Donc, aujourd'hui, les ETD souffrent. Si vous voyez comment les bourgmestres, les chefs de secteur prennent des motos pour rejoindre Tshikapa dans des conditions compliquées, si vous voyez comment le gouverneur des provinces se bat pour redresser, pour venir en aide aux ETD à Ilebo, ailleurs, c'est compliqué. En tout cas, les ministères de la décentralisation, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances et Budget, ensemble avec le chef du gouvernement, avec le chef de l'État, devraient penser à cette question de la décentralisation. Ils doivent mettre, c'est la réforme administrative. Vous savez, en 2015, si j'ai une mémoire, nous qui travaillons dans l'énergie financière provinciale, à l'époque, on était à la DGECOC, Direction générale des ressources du café occidental. Vous savez, à cette époque-là, mais les choses semblaient bien marcher. Mais depuis qu'on a décentralisé en 2015, on a découpé la province du Kassai en 2015 par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Omer Mijé Moussa Kalou, qui s'est salué en passant. Mais nous, on pensait qu'avec la décentralisation, avec le découpage, on serait mieux. Mais aujourd'hui, le gouvernement des provinces souffre. Il n'y a pas de rétrocession, mais Spiro le même dit. Vous savez combien de députés, combien de gouvernements provinciaux ont des arriérés. Il y a trop de choses à parler, mais ça fait mal. Nous lançons un SOS au gouvernement national de prendre ses responsabilités pour donner l'autonomie efficace et certaine aux ETD. Il faut que le gouverneur soit vraiment libre. Mais j'ai l'impression que le ministère de l'Intérieur a encore la tutelle sur le gouvernement provincial. Où est l'importance de la loi sur l'administration des provinces? Excusez-moi, les cas que nous avons connus au Congo central avec Atuma Tubwana, les cas que nous avons connus au Sankuru dans ma province d'origine, mais vous voyez que le ministère de l'Intérieur, apparemment, il couvre ces gouverneurs-là. Mais il faut laisser la libre administration des provinces, il faut laisser la latitude aux députés.
Alors, mais est-ce que, François, vous vous inscrivez dans la logique, comme disait notre ami, je crois, c'est Alfred Décalemi, qui disait tout à l'heure que le processus de la décentralisation a été précoce, le gouvernement central n'a pas pu étudier les paramètres et les éléments nécessaires qui devraient accompagner ces processus?
Bon, pas tellement. Vous savez, les pays, la RDC égorge beaucoup de potentialités. J'ai une bonne mémoire. Vous savez, cette réforme-là est venue à l'époque où le professeur Évariste Bouchabou, le sénateur, était vice-premier ministre de l'Intérieur. Je me souviens très bien. Nous avons connu même beaucoup de problèmes de la décentralisation. Là, les recettes de Tshikapa, quand ça partait à Kana, ça créait des problèmes. Non, la province a été déjà découpée. Or, on n'avait pas encore installé le commissaire spécial et Marc Mayanandambo qui est installé en passant. Donc, le gouvernement avait déjà prévu toutes ces histoires ici, mais c'est ce qui a fait c'est le manque de la volonté.
Manque de volonté politique. Merci beaucoup politique. François pour tous ces éléments. Vous l'avez dit, avant le découpage, il y avait quand même des choses qui marchaient. Après le découpage, ça pose beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, hein, je me rappelle lors d'une émission, il y a des gens qui ont posé des problèmes qui est des régies financières qui ne sont pas aujourd'hui, hein, on peut dire autonomes dans les provinces découpées, n'est-ce pas? Il y a des régies financières qui continuent à dépendre des chefs-lieux des anciennes provinces. Ça pose problème, ça dit qu'il faut vraiment que le gouvernement arrive à manifester la volonté vraiment de laisser ces ETD fonctionner comme il faut, en mettant les moyens, en respectant la loi. Voilà autant de problèmes qui se posent. Merci beaucoup. Simon, vous êtes à Matadi, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour Simon.
Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de par le monde entier et merci beaucoup pour les sujets aussi importants à l'heure actuelle.
On vous écoute, oui.
Nous pensons que lorsque la constitution élaborée est acceptée par nous, la population, parce que cette constitution n'appartient pas aux gestionnaires, c'est une constitution qui a été élaborée par nous, et pour devenir gestionnaire de la République, vous devrez accepter les conditions qui y sont mises, parce que ça nous concerne directement. Et cette constitution élaborée a prévu des mesures pour le développement des entités, parce qu'on avait réfléchi et pensé que c'est pourquoi même nous, la société civile de la RDC, nous avons mobilisé la population pour voter pour la constitution au référendum. Parce qu'on avait vu que les articles qui sont jusqu'à aujourd'hui favorisaient le développement du pays à partir de la base en lui octroyant 40% et retenu à la source. Mais il est inadmissible aujourd'hui pour un État géré par des élites qui proviennent tous des entités qu'ils sont censés protéger par des lois qui pouvaient favoriser le développement de leurs directeurs, puissent aujourd'hui conspirer contre ces mêmes entités en violant pendant 3 mandatures à les articles de la Constitution qui luttent pour le développement des entités. Parce que quand vous voyez l'article 175, alinéa D, là où on dit la part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établi à 40% et est retenu à la source. Mais les conspirateurs contre des entités, ils ont fait de la forfaiture pour transformer et chercher d'autres mots qu'ils appellent aujourd'hui rétrocession. Et c'est là où il y a le nez des problèmes de sous-développement. Ce n'est même pas sur la gestion administrative totalement. Le problème, c'est des fonds. Le problème, c'est de l'argent. Les mesures qui ont été imaginées par la Constitution pour que les entités puissent se développer, c'est de retenir 40% à la source. Et la forfaiture qu'ils ont voulu mettre pour bloquer les ETD, c'était de mettre le mot rétrocession. Rétrocession, c'est de l'imaginaire. Donc, au bon vouloir du pouvoir central, il peut fixer un montant qu'il estime comme tel, sans pourtant que ce montant qu'on le voit avec les desiderata des entités comme telles. Et les députés que nous avons élus pendant...
Mais Simon, si vous vous rappelez, la rétrocession, c'était dans l'ancien mode de gestion, quand on était dans cet état unitaire centralisé, on utilisait la rétrocession. Mais alors, vous vous rappellerez qu'il y a eu un débat ici à Kinshasa, où tous les gouverneurs des provinces, ces temps-là, c'est Moïse Katumbi qui était dans le Katanga, je me rappelle pas encore celui qui était dans au Congo central, et certains gouverneurs des provinces, comme celui du Kasaï central, pendant cette période, c'était le gouverneur Kapuku qui était au Kasaï occidental, Ngoï Kasanji au Kasaï oriental, et certains autres de Bandundu sont venus à Kinshasa dire on ne peut pas appliquer la retenue de 40% parce que nous n'avons pas le même degré de mobilisation de ressources. Ça va déstabiliser les provinces pauvres qui n'ont pas de moyens. C'est ainsi qu'ils ont accompagné le gouvernement central dans la mesure de la rétrocession, estimant que certaines provinces n'ont pas assez de ressources pour retenir 40%. Est-ce qu'elle n'est-ce pas là que le gouverneur, en jouant le jeu de Kinshasa, en accompagnant d'autres, la proposition du gouvernement de l'époque, ont pu exactement se tirer une balle dans le pied.
Mais ce gouverneur qui les avait envoyés, nous avons la constitution qui est au-dessus de tout le monde. Ils ne peuvent pas, s'ils voulaient comme ça, ils devraient soumettre ça au référendum ou chercher une pétition qui puisse dépasser 100 signataires pour que qu'on arrive à trouver cette solution. Leur imagination, ils voulaient rendre l'ascenseur au gouvernement central parce que tous étaient des mêmes familles politiques. Mm-hmm. Et aussi, il y avait une solution trouvée qu'on appelle la péréquation. Parce que toutes les provinces n'ont pas les mêmes forces de mobilisation, il y avait une péréquation qui devrait être faite pour pallier aux provinces qui ont des problèmes. Mm-hmm. Et le mot rétrocession n'est pas constitutionnel. Et c'est que, je vous dis, les trouveurs de solutions qui est là aujourd'hui, Fatih Benton, qu'on appelle comme ça, je pense qu'il doit revenir à la raison. Prendre 40% à la retenue. Mm-hmm. Et utiliser la formulation de péréquation qui était faite pour essayer de remonter. Merci. Aussi les provinces qui n'ont pas les mêmes capacités de mobilisation.
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, mm-hmm. le peuple qui est souverain, lui parler de la rétrocession, cette forfaiture inventée, imaginée par la classe politique de la majorité de l'époque qui voulait tout avoir à son compte, nous pensons que c'est de la provocation contre la population. Et la société
Merci
civile
beaucoup,
de la RDC est en colère et contre ce genre de pratiques qu'on doit réellement corriger et plus rapidement possible pour que les entités se développent.
Merci beaucoup Simon. J'ai retenu deux mots, la conspiration et la forfaiture. Pour vous, le fait qu'on ait évoqué la rétrocession qui n'est pas dans la Constitution, c'est aussi une façon à Kinshasa de pouvoir avoir la même mise, parce que vous rappellerez, nous avons eu un débat où le gouverneur s'est plaigné qu'on vous dit vous avez la rétrocession d'autant, mais quand ça arrive, c'est dégrainé. Quand ça arrive chez le gouverneur, ce n'est pas le montant qui était sorti à Kinshasa. Il y a des gouverneurs qui s'est plaigné que à peine la rétrocession arrive à l'aéroport, on l'appelle à Kinshasa, on dit de retourner autant de pourcentages, il y a autant de problèmes. C'est que les gens ont voulu maintenir la rétrocession pour continuer avec ce genre de pratiques. Alors, on revient à vous, Maître Chadrak, on doit maintenant conclure cet échange. C'est très intéressant. La rétrocession n'est pas constitutionnelle. Vous avez suivi comment Simon parlait avec son cœur. C'est une conspiration contre les entités, le fait de maintenir la rétrocession. Alors, quelles doivent être des solutions aujourd'hui concrètes que vous, en tant que société, vous pouvez proposer au gouvernement central, mais aussi la question de la caisse des péréquations pour terminer cet échange?
Merci, Monsieur Pierrot. Vous savez, j'ai aimé l'intervention de l'intervenant de tout à l'heure,
Simon
également
de
Monsieur Élie Lokwa. Ce sont des problèmes qui sont partout et pour résoudre ces questions, il faut qu'on mette en place des mécanismes qui doivent montrer comment on va appliquer cette décentralisation. Mm-hmm. Je veux dire, parce que nous connaissons une absence totale de politique gouvernementale claire qui détermine même les compétences mm-hmm. de ces ETD entre elles-mêmes. Parce que le problème qu'Eli a évoqué ici, nous vivons aussi dans les lois là-bas. Vous verrez que dans la même ville, il y a des communes, il y a la mairie, il y a la province. Mais il y a des fois que la commune fait du travail qui revient à la mairie. La mairie ne fait rien actuellement parce que même la ville, les gens se posent des questions. Nous voyons la commune, nous voyons la province. Mais que fait la mairie mm-hmm. avec tout ce qu'elle reçoit? C'est parce qu'il n'y a pas la détermination des compétences mm-hmm. ou des limites de chacun et qu'est-ce que tel doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il faudrait que l'État, ça veut dire le Parlement, doit mettre en place, mettre à disposition des ETD et mm-hmm. du gouvernement cette
Merci.
Politique claire et de mécanisme de faisabilité, c'est-à-dire de mécanisme d'accompagnement de la mise en œuvre de cette décentralisation. Mm-hmm. Ça va nous épargner de bien des problèmes mm-hmm. et aussi que la rétrocession soit faite d'une manière vraiment avec un rapport juste selon les besoins de chaque ETD. Mm-hmm.
Et la question de la caisse de péréquation rapidement.
Mais on l'a évoqué jusque-là, il faudrait qu'il y ait une volonté
politique
réelle.
De le faire.
Le gouvernement, le Parlement doit faire pression, doit tout faire pour que cette
Merci.
Caisse puisse servir d'autres ETD qui sont pauvres, que nous qualifions, qui n'ont pas de ressources naturelles qui peuvent permettre de pouvoir
Merci.
Développer leurs ETD.
Merci beaucoup Maître Chadrak Moukad d'avoir fait votre déplacement de ce studio. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Patrick Kiasongwa et Polydor Basunga qui nous ont aidés à réaliser et mettre en onde cette émission. Pierrot et la Mège, pour moi c'était un réel plaisir de vous l'avoir présenté. On se retrouve demain pour un autre notre numéro des paroles aux auditeurs. Mais cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.